On my immediate right, we have Professor Geneviève Saumier, whose research interests include consumer arbitration and class action. She's also a private international law expert. On the far right, we have Professor Frédéric Bachand, whose research interests focus on arbitration and judicial procedure. They're in a very good position to comment on Seidel. And I'm the lucky colleague in the middle of these two. I'm very lucky to be able to work with them on multiple projects. My name is Fabien Gélina, and I will act as your host and moderator tonight. As indicated in the publicity, the evening will be mostly in French. Mais dans la tradition méguilloise, tout le monde, évidemment, est libre de parler la langue de son choix. Alors, pour vous donner un aperçu de la soirée, nous débuterons avec une présentation par Frédéric Bachand, qui fera essentiellement le point sur le droit au Canada après l'affaire Seidel. Pour faciliter les choses, vous avez dans votre pochette, qui a été distribuée à l'entrée, un imprimé des diapositives qu'il présentera. Vous avez également un extrait de la loi de protection du consommateur qui est discuté dans l'affaire Seidel. Ça va vous aider beaucoup à suivre la présentation. Alors, nous nous tournerons ensuite vers Geneviève Saumier qui nous offrira ses commentaires sur les propos du professeur Frédéric Bachand et sur la décision de la Cour suprême elle-même. Nous nous tournerons ensuite vers l'Assemblée pour une discussion générale à laquelle je me considérerai convié moi-même. Je voudrais signaler que la soirée est enregistrée pour reproduction sur un site web, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas prêt à être enregistré, vous devez quitter la salle. Et ce qui veut dire également que lors de la période de questions, nous vous demanderons d'utiliser le micro qui sera mis à votre disposition. Sinon, l'enregistrement ne fonctionnera pas. Alors, vous êtes à la fin de la soirée invité à un cocktail. Le cocktail vous est offert par l'équipe de recherche et donc par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture qui finance l'équipe de recherche, ainsi que par la faculté de droit. Alors, le cocktail aura lieu au sixième étage, donc c'est quelques étages plus haut. Pour ceux qui peuvent prendre l'escalier, allez-y, les ascenseurs devraient aussi fonctionner. Alors, en guise d'introduction sur le fond, je dirais très brièvement que l'arrêt Seidel, à mon sens, pose un débat que l'on retrouve dans deux formules de la doctrine française du 19e siècle, des formules qui semblent être d'une brûlante actualité aujourd'hui. Alors, l'une est d'Alfred Fouillé, et l'autre de Jean-Baptiste Lacordaire. Alors, la première formule, c'est qui dit contractuel dit juste. Et la deuxième formule, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui libère. Alors, je trouve que l'affaire Seidel arrive juste entre les deux, et c'est donc le débat auquel on va se livrer ce soir. Je vais sans plus tarder donner la parole à Frédéric Bachand.
Merci beaucoup Fabien. Merci d'être venu quand même en si grand nombre. Ça nous fait plaisir. Et ça nous donne aussi l'occasion de discuter avec vous et je l'espère peut-être aussi de débattre de l'affaire Seidel et de nos opinions là-dessus. Nous, on en parle depuis que l'arrêt a été rendu au mois de mars, et on a des débats sur l'interprétation, sur sa portée, qui sont très stimulants, et on espère vraiment pouvoir enrichir notre propre réflexion avec la discussion et les débats qui auront lieu aujourd'hui. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être très formel comme présentation. Si vous voulez intervenir durant ma présentation, levez votre main, soulevez une objection dirimante, faites-le, ça va me faire plaisir. On pourra en discuter à ce moment-là, mais sinon, on pourra intervenir lors de la période de questions de manière plus traditionnelle. Donc, Seidel, arrêt rendu le 18 mars dernier. C'est le huitième arrêt que la Cour suprême rend en matière d'arbitrage conventionnel depuis le début des réformes législatives au milieu des années 80, mais c'est le sixième qu'elle rend depuis 2003. Donc, elle commence à s'intéresser de plus en plus à l'arbitrage, comme vous le savez peut-être. Et c'est sans doute un des arrêts, en fait, non, je dirais, c'est possiblement un des arrêts les plus importants que la Cour suprême a rendu en matière d'arbitrage conventionnel. Et je dis possiblement parce qu'on ne s'entend pas dans notre communauté sur l'importance et la portée de cet arrêt Seidel. Les plus optimistes y voient un arrêt qui s'inscrit parfaitement dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême, un arrêt par lequel les 9 juges de la Cour suprême auraient réitéré et maintenu leur soutien, le soutien à l'arbitrage conventionnel qui a été exprimé dans des arrêts comme Desputo, Grécon et Dell et Rogers plus récemment. D'autres, en revanche, et je fais partie du second groupe, ne sont pas du tout d'accord avec cette lecture de l'arrêt Seidel et voient plutôt dans cette nouvelle décision de la Cour une certaine remise en question de l'attitude favorable à l'arbitrage dont la Cour suprême avait fait montre depuis au moins le début des années 2000 dans sa jurisprudence. Et puis je vais essayer de vous expliquer, peut-être même de vous convaincre de la justesse de cette lecture, de cet arrêt-là au cours de cette présentation. Et si vous me permettez, je vais renverser un petit peu l'ordre normal des choses et je vais commencer par vous présenter mes conclusions. Donc, les éléments qui, pour moi, sont les plus marquants de cet arrêt Seidel. Après ça, je vais développer mon analyse, puis on va revenir, je remettrai cette diapo-là à la fin et on pourra discuter de certaines de ces conclusions-là. Donc, qu'est-ce que je retiens surtout de l'arrêt Seidel? En fait, il y a 7 points qui me paraissent particulièrement importants, 7 points qui m'ont surpris lorsque j'ai lu cet arrêt-là. Premièrement, la Cour suprême est fortement divisée sur des questions assez fondamentales, sur l'importance à accorder à l'arbitrage, sur le rôle que jouent les juges aussi en matière de justice privée et plus spécifiquement en matière d'arbitrage conventionnel. Et je le souligne parce que c'est une première. C'est la première fois que la Cour suprême est véritablement divisée sur des questions aussi fondamentales. C'est vrai que dans Dell, la Cour avait été divisée à 5-4. C'est un arrêt où il y avait une dissidence qui était quand même importante, mais c'est une dissidence qui portait sur relativement technique de droit international privé. La légitimité de l'arbitrage en tant que tel n'était pas du tout remise en cause par la dissidence. Au contraire, vous vous souviendrez peut-être que les juges minoritaires d'Andel étaient allés jusqu'à affirmer que l'arbitrage pouvait, dans certaines circonstances, accroître l'accès à la justice du consommateur, c'est-à-dire que lorsque les circonstances étaient appropriées, l'arbitrage pouvait s'avérer être un meilleur moyen de résolution des différentes consommations que le recours aux tribunaux judiciaires. Deuxième point, c'est qu'on note, surtout dans l'arrêt majoritaire, une certaine résurgence d'une méfiance envers l'arbitrage, une méfiance surtout envers l'utilisation de l'arbitrage pour résoudre des différends d'intérêt public. Et c'est une méfiance qu'on croyait révolue, c'est une idée, cette idée que l'arbitrage ne serait pas approprié ou peut-être moins approprié lorsqu'on sort du schéma classique d'un litige contractuel assez banal entre deux parties qui n'intéressent que ces parties-là et donc qui ne soulèvent aucune question d'intérêt public ou d'ordre public. Dans un cas classique comme celui-là, la légitimité de l'arbitrage est parfaitement acceptée, mais il semble se dégager de l'arrêt majoritaire de la Cour suprême une remise en question de la légitimité de l'arbitrage lorsqu'on sort de ce domaine-là et qu'on commence à s'intéresser à des différends qui touche de près ou de loin l'ordre public ou l'intérêt public. Et je dis que c'est une idée qu'on croyait révolue parce qu'il y a plusieurs développements qui sont survenus au cours des dernières années qui nous donnent à penser qu'en tout cas au Canada, on a très clairement accepté que l'arbitrage pouvait être un moyen parfaitement légitime de résoudre des différends d'intérêt public et qui touchent à l'ordre public. Je pense par exemple au chapitre 11 de l'ALENA ou aux nombreux traités que le Canada a signés en matière d'investissements internationaux. Dans le cadre de ces traités-là, on reconnaît très, très, très clairement la légitimité du recours à l'arbitrage pour trancher des différends qui, très souvent, mettent en cause des questions, soulèvent des questions d'intérêt public et qui, dans certains cas, intéressent très, très, très fortement l'intérêt public. Dans le cadre du chapitre 11 de l'ALENA, par exemple, il y a des différends très importants en matière environnementale qui ont été tranchés par des arbitres. C'était des décisions qui incontestablement étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'ensemble des citoyens et pas seulement sur les intérêts de l'investisseur qui poursuivait l'état d'accueil dans le cadre d'une procédure arbitrale. Troisième point, c'est qu'au lendemain de Seidel, selon moi, le droit de recourir à l'arbitrage a perdu un peu de son importance et moins important qu'il ne l'était auparavant. Et chose certaine, l'arrêt Seidel est très, très, très difficile à réconcilier avec des arrêts comme, par exemple, l'arrêt Laurentienne-Vie qui a été rendu par notre cour d'appel en 2000, arrêt dans lequel la cour n'a pas hésité à élever au rang de droit fondamental le droit de recourir à l'arbitrage. Puis là, on pourrait débattre de l'opportunité de cette qualification-là, mais le point essentiel est que cette idée-là avait quand même été reçue par la jurisprudence. Et selon moi, après avoir lu Seidel, je pense qu'implicitement, la Cour suprême a rejeté cette idée-là que le droit de conclure une convention d'arbitrage était un droit fondamental ou même plus important que le droit de conclure n'importe quel autre contrat. Je dirais que ça a été un peu surprenant, ce développement-là. L'attitude que la Cour a manifestée dans Seidel était inattendue, compte tenu de sa jurisprudence récente, qui était unanimement et très favorable au recours à l'arbitrage. Peut-être même trop, selon certains, surtout au lendemain de l'arrêt Dell et de l'arrêt Rogers, où la Cour suprême a été l'objet de certaines critiques de personnes qui considéraient qu'on poussait peut-être l'enthousiasme envers l'arbitrage un petit peu trop loin. Mais chose certaine, il n'y a pas grand monde qui s'attendait à le genre d'arrêt que la Cour suprême a rendu dans l'affaire Seidel. Maintenant, il pourrait être tentant de faire une lecture relativement optimiste de l'arrêt Seidel et de considérer qu'il s'agit finalement peut-être d'un accident de parcours et que la Cour suprême, même si elle a manifesté une certaine méfiance envers l'arbitrage dans cette affaire-là, n'a pas nécessairement voulu remettre en question de manière fondamentale son attitude favorable à l'arbitrage. Moi, je vais vous dire que je ne suis pas très convaincu par cette thèse-là, que je considère pas très plausible. Pourquoi? Parce que les juges dissidents, puis il faut vraiment lire Seidel du début à la fin pour apprécier sa portée, je crois. Les juges dissidents ont ouvertement et très fortement accusé les juges majoritaires d'adopter une attitude rétrograde, de revenir à une époque de la méfiance qu'on croyait révolue. Et ça donne à penser que les juges majoritaires étaient parfaitement au courant des enjeux. Ils savaient très bien à la lecture de la dissidence. Certaines personnes, au moins, allaient interpréter le jugement majoritaire comme remettant en cause, d'une certaine manière, la légitimité du recours à l'arbitrage. Donc, ça rend l'arrêt majoritaire encore plus lourd de conséquences, selon moi, et je pense que ça rend la thèse de l'accident de parcours un petit peu moins convaincante. Sixième point, et ça, c'est la leçon pratique, je crois, de l'arrêt Seidel. Je pense pour les praticiens d'ici comme d'ailleurs, la leçon principale que moi je tire, c'est qu'on ne peut plus tenir pour acquis que face à une ambiguïté, soit dans la loi ou soit dans la jurisprudence, les juges canadiens auront tendance à privilégier ce qu'on peut qualifier de la solution pro-arbitrage. Parce que la jurisprudence antérieure de la Cour suprême était si favorable à l'arbitrage qu'on pouvait, si vous aviez à donner une opinion, par exemple, à un praticien étranger qui vous appelait et qui vous demandait si de choisir le Canada comme siège d'arbitrage, un arbitrage CCI, était une bonne chose. La plupart des gens diraient, bien, écoutez, on a un cadre législatif très favorable à l'arbitrage, on a adopté la loi type en matière d'arbitrage international et en matière d'arbitrage interne également au Québec. On avait une jurisprudence qui commençait à se développer et qui était unanimement favorable à l'arbitrage. Donc, on pouvait émettre cette opinion-là, puis recommander à des praticiens étrangers de choisir le Canada comme siège d'arbitrage. Mais maintenant, je crois qu'il faut quand même exprimer cette réserve-là, puis reconnaître que c'est plus aussi certain que ça ne l'était avant, que face à une question difficile, les juges vont privilégier la solution qui est favorable au développement de l'arbitrage, qui est favorable à l'autonomie de la volonté. Maintenant, je ne vais pas jusqu'à dire que la Cour suprême dans Seidel est devenue anti-arbitrage et que les juges canadiens maintenant vont systématiquement adopter des positions qui sont défavorables à l'arbitrage. Je pense que ça serait d'aller beaucoup, beaucoup trop loin. Il ne faut pas oublier que, je le répète, le cadre législatif au Canada est quand même très, très favorable à l'arbitrage. Il n'y a aucune raison de croire que les juges vont se mettre vont développer une certaine réticence à appliquer une disposition législative claire qui est favorable à l'arbitrage ou favorable à l'autonomie de la volonté. Donc, je pense qu'il faut être nuancé puis pas penser que c'est le début d'une ère anti-arbitrage où il y a une remise en cause vraiment fondamentale de la légitimité du recours à l'arbitrage et plus largement de la légitimité de la justice privée. Alors, bon, parlons plus directement de l'affaire Sider. Je commence par une brève remise en contexte, si vous n'avez pas lu l'arrêt récemment. Madame Sider est une consommatrice britanno-colombienne qui cherche à intenter un recours collectif contre TELUS, une compagnie que nous connaissons tous, fournisseur de services de téléphonie mobile. Et elle regroupe plusieurs courses d'action dans le cadre de cette action collective-là. Une des causes d'action invoquées par Mme Sider se fonde sur une disposition précise de la loi sur la protection du consommateur britanno-colombienne, l'article 172, sur lequel on va revenir. Mais je souligne, parce que c'est quand même important, il y a d'autres causes d'action qui étaient invoquées par Mme Sider, dont des causes d'action de droit commun, de common law, des causes d'action contractuelles de common law. Donc, il s'agit d'un différend contractuel, évidemment, qui découle d'un contrat de consommation. Et le contrat de consommation, bien évidemment, contient une clause compromissoire, une clause d'arbitrage, en fait une clause de médiation et arbitrage. Hein. C'est intéressant de le souligner, c'est une clause de MedArb qui prévoit d'abord une première étape de médiation, une seconde étape d'arbitrage. Clause qu'évidemment TELUS invoque afin de contester la recevabilité du recours collectif que Mme Sider cherche à intenter devant les tribunaux judiciaires britanno-colombiens. Deux autres éléments importants à souligner, deux autres caractéristiques de cette clause de résolution différente. Premièrement, il y a une disposition relative à la confidentialité, donc il est expressément prévu que tant la médiation que l'arbitrage seront confidentiels. On cherche à créer des obligations de confidentialité par le biais de cette clause-là, et c'est une donnée pertinente, et on va revenir sur celle-ci un petit peu plus tard. Et dernier point important à retenir de cette clause-là, c'est qu'il y a une renonciation explicite au droit de procéder par le biais du recours collectif. En fait, TELUS cherche à forcer les consommateurs à abandonner le droit qu'on leur reconnaît autrement d'intenter un recours collectif. Ce sont les fameuses « no class action stipulations » qu'on retrouve dans beaucoup de contrats de consommation. En fait, qu'on retrouvait dans beaucoup de contrats de consommation à l'échelle nord-américaine. Je pense qu'elle commence à disparaître suite à des interventions législatives qui viennent limiter la validité. Mme Seidel, évidemment, s'oppose à la demande faite par TELUS de suspendre l'instance et de renvoyer l'affaire à l'arbitrage. Et elle soulève essentiellement trois arguments. D'abord, elle prétend que la clause de médiation et d'arbitrage est inopérante parce que pour elle, dès lors que les conditions d'accès au recours collectif énoncées dans la loi britanno-colombienne sur le recours collectif sont remplies, une clause d'arbitrage devrait devenir invalide. L'autre façon de présenter son argument, c'est de dire, en fait, c'est le même argument qui était fait par M. Dumoulin dans l'affaire de Dell, c'est de prétendre que la loi sur le recours collectif confère non seulement un droit d'intenter dans certaines conditions un recours collectif, mais aussi d'intenter ce recours collectif devant une instance judiciaire. Alors, la nuance est quand même importante. Elle prétendait que dès lors que les conditions d'accès au recours collectif étaient remplies, le consommateur avait le droit de procéder collectivement premièrement, mais procéder collectivement devant un juge, en l'occurrence un juge de la Colombie-Britannique. Alors, c'était son premier argument qui, évidemment, lui aurait permis d'intenter l'ensemble de son recours devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. Deuxièmement, à titre subsidiaire, Mme Sider prétendait que les réclamations fondées sur l'article 172 de cette loi britanno-colombienne sur la protection du consommateur étaient inarbitrables. Évidemment, c'est le cœur de l'arrêt, on va y revenir tout à l'heure. Et troisièmement, elle prétendait que la fameuse « no class action stipulation », donc la clause de renonciation au recours collectif, était elle aussi invalide. Alors voilà en gros le contexte de l'affaire. Et quand Sider a été plaidé, c'était en mai 2010, la plupart des observateurs s'attendaient à ce que Mme Seidel morde la poussière en Cour suprême, compte tenu de la jurisprudence très favorable à l'arbitrage qui avait été rendu par les arrêts très favorables à l'arbitrage qui avaient été rendus par la Cour suprême, qui était jusque-là sans fausse note, en ce sens qu'il y avait une jurisprudence très, très, très cohérente, que ce soit dans l'affaire Burlington Northern Railway, qui est le premier arrêt de la Cour suprême qui a appliqué les lois, une des lois canadiennes qui met en œuvre la loi type de la CNUTI sur l'arbitrage commercial international, dans Desputo, dans Grécon, plus tard dans Dell. À chaque opportunité que la Cour avait, elle choisissait la position, la solution qui était la plus favorable à l'autonomie de la volonté. Elle avait même, dans les arrêts Grécon et Dell, adopté une conception transnationale très, très, très innovatrice de l'arbitrage, en déclarant de manière expresse dans Dell que l'arbitrage est une institution sans fort et sans assise géographique. J'étais en Europe il y a quelques semaines et lors d'un colloque, il y a un professeur allemand, et on parlait de théorie et de philosophie d'arbitrage, et qui a cité ce passage-là en affirmant que la Cour suprême du Canada venait d'adhérer aux thèses les plus favorables à l'autonomie de l'arbitrage international. Donc, une jurisprudence qui était même reçue à l'étranger comme étant unanimement et très, très, très fortement favorable à l'arbitrage. Et d'ailleurs, la cour d'appel de Colombie-Britannique, dans l'affaire Seidel, aucune difficulté à rejeter les arguments de Mme Seidel en rendant une décision qui s'inscrivait parfaitement dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême. Donc, encore là, le contexte était peu favorable et on s'attendait à une décision pas particulièrement importante qui allait réitérer ce qui avait été dit, notamment dans Dell, notamment dans Desputo aussi en ce qui concerne l'arbitrabilité des litiges. Brièvement, quelles ont été les réponses offertes par la Cour suprême aux arguments, aux principaux arguments de Mme Seidel? Premièrement, en ce qui concerne la question de savoir si la clause d'arbitrage est automatiquement inopérante ou invalide ou inopposable dès lors que les conditions d'accès au recours collectif sont remplies, la Cour suprême a rejeté cet argument-là. Et sa décision là-dessus est parfaitement compatible avec la décision qu'elle a rendue dans Dell en 2007. Donc, toutes les réclamations de Mme Seidel qui n'étaient pas fondées sur l'article 172 de la loi sur la protection du consommateur, incluant les réclamations de common law, de recours contractuel, ces réclamations-là ont été renvoyées à l'arbitrage et même sans égard à la question de savoir si les conditions d'accès au recours collectif étaient effectivement remplies. Donc, rejet, je vous dirais sommaire même de l'argument principal de Mme Seidel, parce que si vous lisez l'arrêt Seidel, vous allez voir qu'il n'y a presque pas de développement sur cette question-là. C'est seulement en deux ou trois phrases que la Cour suprême est arrivée à la conclusion que, évidemment, les autres réclamations de Mme Seidel devaient être envoyées à l'arbitrage. Et c'est quand même une conclusion qui est lourde de conséquences. Et moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus motivée par la Cour suprême, même si, selon moi, on avait déjà répondu dans l'ensemble à cette question-là dans l'arrêt d'elle. Sur le deuxième point, est-ce que les réclamations fondées sur l'article 172 sont inarbitrables? Évidemment, la réponse est oui. J'y reviens dans un instant parce que c'est évidemment le cœur de l'analyse qui a été faite tant par les juges majoritaires que les juges minoritaires. Et troisièmement, sur la question sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure lors de la discussion, l'opposabilité, de la validité des renonciations au droit de procéder par le biais d'un recours collectif. Alors, est-ce que la renonciation au recours collectif est également invalide? La Cour suprême dit oui en ce qui a trait aux réclamations qui sont fondées sur l'article 172 de la loi sur la protection du consommateur, parce que la Cour a considéré que la renonciation au recours collectif était indissociable de la clause compromissoire. Alors, dès lors que la Cour avait conclu la clause d'arbitrage était invalide en ce qui concerne la réclamation sous 172, bien, logiquement, l'ensemble de la clause est invalide, y compris la renonciation au recours collectif, et c'est pour cette raison-là qu'elle a conclu que Mme Seidel pouvait procéder devant les tribunaux judiciaires par le biais d'un recours collectif en ce qui concerne les réclamations sous 172. mais la portée de la décision de la Cour est assez limitée sur cette question. En fait, on pourra revenir parce qu'il y a peut-être plusieurs interprétations qu'on peut donner, mais la Cour n'est pas allée jusqu'à dire que toutes les renonciations au recours collectif étaient contraires à l'ordre public ou toujours invalides. C'est vraiment une conclusion qui est assez limitée parce qu'elle est fondée sur l'interprétation que la clause a donnée, que la Cour a donnée à la clause ici, de cette idée-là qu'il y avait un rapport de dépendance au plan juridique entre la renonciation au recours collectif et l'intention des parties ou la promesse que les parties se sont faites de recourir à l'arbitrage. Alors, penchons-nous un petit peu plus en détail sur le cœur de l'arrêt et la question de l'arbitrabilité des recours intentés sur le fondement de l'article 172 de la loi sur la protection du consommateur. Et pour bien réfléchir à cette question-là, il faut bien comprendre certaines caractéristiques importantes de cet article 172. Comme je vous l'ai dit, je l'ai reproduit dans les documents que vous avez dans le petit paquet qu'on vous a remis. Il y a cinq caractéristiques principales de l'article 172 qui, pour moi, sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne la question de l'arbitrabilité. Premièrement, l'article 172 déroge aux règles générales en matière d'intérêt pour agir en justice parce que, et c'est très clair au premier paragraphe, on permet à une personne d'intenter un recours sur 172 et de rechercher soit une déclaration ou une injonction, même si cette personne-là n'a pas d'intérêt particulier dans l'affaire, c'est-à-dire même si cette personne-là n'a pas été directement touchée, affectée par l'opération commerciale dont on prétend qu'elle est contraire à la loi sur la protection du consommateur. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir subi un préjudice particulier découlant de la pratique prétendument illégale pour pouvoir avoir accès aux recours qui est mis à la disposition des justiciables à l'article 172. Deuxième caractéristique intéressante de 172, c'est que le législateur permet que soient rendues des ordonnances à l'avantage de tierces parties, ce qui est logique puisque une personne qui n'a pas un intérêt direct, si une personne qui n'a pas un intérêt direct peut intenter un recours sur 172, logiquement, on devrait pouvoir obtenir des ordonnances qui vont bénéficier ou qui vont être à l'avantage non seulement de cette personne-là, mais aussi et surtout des personnes qui ont été directement affectées ou visées par la pratique illégale, prétendument illégale, qui est en litige. Donc, par exemple, 172 permet à la partie demanderesse d'obtenir une ordonnance de restitution de biens ou de sommes d'argent qui va être à l'avantage d'autres personnes ou d'un groupe, un groupe de consommateurs qui aurait été spécialement atteint par la pratique qui a été attaquée. Troisième particularité ou caractéristique remarquable de l'article 172, c'est que les droits qui sont conférés sont non susceptibles de renonciation. C'est très clair. Article 3 de la loi sur la protection du consommateur, donc tous les droits qui sont sauf disposition contraire, tous les droits qui sont accordés par la loi sont non susceptibles de renonciation. Quatrièmement, encore là, le texte de 172 est explicite. Le législateur notifie clairement un forum, la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui est un tribunal de première instance, comme étant le tribunal devant lequel un consommateur, un justiciable pourra intenter un recours sous 172. Et dernière caractéristique importante, qui évidemment faisait en sorte qu'il y avait une question difficile qui se posait ici, c'est que la disposition est totalement silencieuse sur la question de l'arbitrage. Alors, le législateur ne s'est pas expressément prononcé sur la question de savoir si on peut ou non trancher par arbitrage des recours qui sont fondés sur l'article 172 de cette loi. Alors donc, la Cour conclut que les différents découlants de 172 sont effectivement inarbitrables et il y a trois aspects de son analyse de l'arbitrabilité de cette partie-là du litige que je trouve particulièrement remarquable et qui me mène à conclure de manière de conclure comme je le fais et ce sont les trois caractéristiques de ces motifs qui me mènent à considérer que c'est un arrêt quand même assez important et qui entraîne une certaine remise en question de la légitimité de l'arbitrage. Premièrement, première caractéristique importante, premier aspect important, c'est l'abandon de la présomption interprétative qui avait été dégagée par la Cour suprême en 2003 dans son arrêt Desputo. Desputo soulevait notamment la question de l'arbitrabilité des litiges qui touchent aux droits d'auteur à la lumière d'un article précis de la loi sur le droit d'auteur, la fédérale sur le droit d'auteur, qui est l'article 37, qui est une générale assez générale, qui confère une compétence concurrente à la Cour fédérale et aux cours supérieures provinciales pour trancher les litiges qui découlent de la loi. Mais évidemment, c'est une disposition qui ne mentionne pas expressément l'arbitrage. Et une des questions qui se soulevait dans Desputo, c'est de savoir si, parce que le législateur n'avait pas mentionné l'arbitrage en attribuant ces compétences-là, on devait déduire une intention de sa part d'exclure le recours à l'arbitrage. La Cour suprême avait dit non. La Cour suprême avait dit on ne peut pas présumer de l'absence de toute mention de l'arbitrage dans cette disposition-là, une quelconque intention d'exclure l'arbitrage, de conclure à l'inarbitrabilité de ces litiges-là. Et la Cour suprême était allée encore plus loin dans Desputo. En adoptant une attitude très favorable à l'arbitrage, elle avait essentiellement dit que ce n'est que lorsque une disposition législative interdit l'arbitrage de manière explicite, de manière expresse, qu'on devrait conclure qu'elle limite de quelque manière que ce soit le recours à l'arbitrage. Donc, l'autre façon de présenter cette analyse-là, c'est de dire que la Cour avait reconnu une présomption très, très forte d'arbitrabilité des litiges. Donc, les litiges sont arbitrables, sauf si le législateur s'est exprimé, a voulu le contraire et s'est exprimé de manière très, très claire et explicite pour consacrer la solution contraire. Et en adoptant cette méthode d'interprétation législative, la Cour suprême, dans Desputo, rejoignait une approche, ou en fait adhérait à une approche qui tend à être adoptée dans les pays qui sont particulièrement favorables à l'arbitrage. En droit américain, par exemple, c'est reconnu depuis plusieurs années qu'on doit présumer que les litiges sont arbitrables et que c'est seulement s'il y a une intention très, très claire qui se dégage d'un texte de loi que les juges sont autorisés à conclure à l'inarbitrabilité d'un litige. Gary Bourne, dans son traité récent de droit comparé de l'arbitrage international, exprime une idée similaire au terme d'une analyse comparative assez exhaustive. Et tant les juges dissidents dans Seidel que la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans cette même affaire Seidel avaient interprété l'arrêt Desputo de la même manière et donc conclu qu'en l'absence d'une mention explicite ou expresse, on devait conclure à l'arbitrabilité des litiges. Mais évidemment, dans Seidel, il n'y en a pas de disposition explicite dans 172 qui interdit ou qui limite le recours à l'arbitrage. Malgré ça, la majorité de la Cour suprême est venue à la conclusion que ces recours-là étaient inarbitrables. Donc, la conclusion, selon moi, c'est que, de manière implicite, on est venu abandonner la démarche interprétative qui avait été adoptée dans Desputo. On a abandonné la présomption interprétative, ce qui veut dire que les arguments d'inarbitrabilité fondés, non pas sur un texte express, explicite, mais sur l'intention implicite du législateur, sur l'objectif d'une loi, redeviennent, je vous dirais, parfaitement recevables après Seidel. Avant Seidel, on pouvait facilement prétendre on pouvait facilement s'objecter à ce genre d'argument-là en disant, écoutez, il faut que le législateur le dise expressément. On ne peut pas regarder le contexte et essayer de dégager du contexte ou des caractéristiques d'un texte de loi une espèce d'intention implicite de limiter le recours à l'arbitrage. On avait vraiment, dans Desputo, lancé la balle, remis la balle dans le camp des législatures. Donc ça, c'est quand même une conséquence qui est assez importante et qui me mène aussi à conclure qu'au lendemain de Seidel, le domaine de l'arbitrabilité au Canada est moins clair et surtout moins étendu qu'il l'était avant que cet arrêt-là ait été rendu. Et je pense que c'est un constat qui est très important parce que l'étendue du domaine de l'arbitrabilité, l'étendue du domaine des matières arbitrables dans un ordre juridique donné est probablement un des plus importants indicateurs, sinon le principal indicateur de la légitimité qui est accordée à l'arbitrage et à la justice privée dans un ordre juridique donné. Donc, clairement, il y a un recul de la doctrine de l'arbitrabilité qui aussi introduit une certaine instabilité dans le cadre juridique. C'est assez réconfortant, surtout du point de vue des praticiens, après Desputo, de savoir que l'analyse était assez facile à faire. Si on ne trouvait pas de réserve explicite dans la loi, mais on devait conclure normalement que le litige est arbitrable. Et là, c'est plus vrai. Et les arguments fondés sur l'intention implicite ou l'objectif législatif redeviennent recevables. Deuxième point, encore là, que je trouve pertinent en ce qui concerne les questions plus larges de légitimité de l'arbitrage et d'importance accordée à l'arbitrage dans les ordres juridiques canadiens, c'est que l'analyse que fait ensuite la Cour suprême de l'arbitrabilité des litiges découlant de l'article 172 me paraît peu convaincante, pour être très franc. Essentiellement, la Cour retient trois motifs pour conclure à l'inarbitrabilité des litiges qui découlent de l'article 172. Premièrement, elle insiste sur le fait que l'article 172, vous l'avez devant vous, mentionne expressément la Cour suprême de Colombie-Britannique, identifie la Cour suprême de Colombie-Britannique comme étant le forum devant lequel pourrait être intentée une action fondée sur 172. Deuxièmement, la Cour suprême insiste sur le caractère confidentiel de l'arbitrage qui était prévu dans la clause en litige ici. Et pour la Cour, ce caractère confidentiel était incompatible avec plusieurs caractéristiques de l'article 172. Donc, elle a vu là un deuxième indicateur d'une intention législative d'exclure, de ne pas permettre le recours à l'arbitrage. Et troisièmement, je vais redévelopper ces points-là, troisièmement, elle a insisté sur le fait qu'à son avis, un tribunal arbitral ne peut rendre des ordonnances liant des tiers. Et comme selon elle, l'article 172 permettait que soient rendues des ordonnances liant des tiers, encore là, on avait un autre indicateur d'une incompatibilité fondamentale entre les recours fondés sur 172 et le recours à l'arbitrage privé. Je reprends le premier argument qui ne me paraît pas convaincant parce que le seul fait que l'article 172 fasse référence à la Cour suprême de Colombie-Britannique n'est pas, selon moi, un indicateur très, très convaincant, si vous voulez, d'une quelconque intention du législateur d'exclure le recours à l'arbitrage. Le fait que le législateur mentionne expressément la Cour suprême de Colombie-Britannique ne confère pas nécessairement au consommateur un droit qui est non susceptible de renonciation au sens de l'article 3 de procéder devant cette Cour. Parce qu'on peut très bien lire cette référence-là autrement et considérer que tout ce que le législateur cherchait à faire en mentionnant l'article 172, c'était de répartir les compétences au plan rationné matériel, c'est-à-dire d'identifier dans l'ordre juridique britanno-colombien quel tribunal allait avoir compétence pour connaître de ces litiges-là. On ne cherchait pas nécessairement à répartir les compétences entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux d'arbitrage privés. Donc, c'est un peu hasardeux là, de voir dans cette seule référence-là un indicateur pertinent, ou en tout cas convaincant, d'une quelconque intention d'exclure le recours à l'arbitrage. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un argument très similaire à celui qui avait été très rejeté par la Cour suprême en 2003 dans son arrêt Desputo, mais ici, les juges majoritaires l'ont considéré comme étant non seulement recevable, mais relativement pertinent. Deuxième point sur la question de la confidentialité. C'est pas très clair, mais moi, mon interprétation des motifs de l'arrêt majoritaire, c'est que pour les juges majoritaires, la confidentialité posait problème à trois niveaux. Premièrement, parce que l'arbitrage était confidentiel, le tribunal arbitral n'aurait pas pu rendre certaines des ordonnances prévues à l'article 172. Par exemple, l'ordonnance forçant le commerçant à rendre public tout jugement ou ordonnance rendue contre lui. Deuxièmement, la Cour suprême semblait considérer que la confidentialité empêcherait, l'obligation de confidentialité découlant de la clause empêcherait le consommateur de dénoncer publiquement des pratiques commerciales illégales ou contraires à la loi, y compris dans le cadre d'un recours en homologation, ce qui pousse l'obligation de confidentialité quand même très, très loin. Et troisièmement, la question de la confidentialité posait problème parce que, comme la procédure devait être confidentielle, d'autres consommateurs qui auraient pu aussi être concernés par la pratique qui était contestée n'auraient pas l'occasion de se manifester dans le cadre de cette instance-là, de prendre connaissance de l'existence du recours et de venir appuyer, si vous voulez, le consommateur qui avait décidé de se prévaloir de l'article 172. Et pourquoi est-ce que je considère cette...
l'analyse de la Cour suprême sur cette question-là peut pertinente. Mais la principale raison, c'est que tout ça, on peut admettre que 172 effectivement requiert un recours public. Puis je pense que c'est assez, on peut être assez facilement convaincu qu'en matière de protection du consommateur, c'est important qu'on sache que TELUS est poursuivi, puis qu'il y a une allégation de pratique commerciale illégale qui a été formulée contre une compagnie qui a beaucoup de consommateurs. Je pense que de manière générale, l'intérêt public est mieux servi si ces procédures-là sont publiques et que on est informé du fait qu'un commerçant, par exemple, a été reconnu coupable d'une contravention à la loi sur la protection du consommateur. Ça va, je trouve ça convaincant. Le problème, c'est que tous ces arguments-là sont des arguments qui sont pertinents à la validité de la disposition de la clause qui concerne la confidentialité, mais pas nécessairement l'arbitrabilité du litige. C'est-à-dire, si vous acceptez tous ces arguments-là et vous considérez qu'il faut que la procédure soit publique, mais ça, c'est un argument pour écarter la disposition de la clause d'arbitrage qui requiert la confidentialité. Mais la question clé, c'est en quoi est-ce qu'on trouve là des arguments qui justifient l'inarbitrabilité du litige? La réponse à ça, c'est de dire, parfait, on va avoir un arbitrage public. On ne donnera tout simplement pas effet à la disposition de la clause d'arbitrage qui prévoit la qualité de la procédure. Et là, s'il y a un arbitrage qui est public, bien, la partie demanderesse pourra elle-même révéler au grand jour l'existence de l'arbitrage. D'autres consommateurs pourront venir appuyer cette personne-là en disant, eh bien, moi aussi, j'ai peut-être des preuves à fournir qu'il y a effectivement une contravention qui a eu lieu. Et au terme d'une procédure qui accueille l'action et condamne le commerçant à, par le biais d'une injonction ou rend un jugement déclaratoire sur 172, à ce moment-là, le grand public aurait pu être parfaitement informé de l'existence de cette condamnation-là, et l'intérêt public peut être servi de cette manière-là. Alors, encore là, je pense qu'il manque un élément dans le raisonnement de la Cour, parce que tout ça, pour moi, sont des arguments pertinents, convaincants même pour peut-être écarter la clause de confidentialité, mais ça, pour moi, ce ne sont pas des justifications suffisantes pour écarter carrément le recours à l'arbitrage. Sur le troisième point, la Cour dit « Ah, mais en matière d'arbitrage, un tribunal arbitral ne pourra pas rendre des ordonnances liant les tiers », ce qui est tout à fait vrai. Évidemment, en raison du fondement conventionnel de l'arbitrage, un arbitre privé n'a pas le pouvoir de rendre une ordonnance qui lierait un tiers. Puis là, je ne parle pas de compagnie liée dans un groupe de compagnies où il pourrait y avoir des questions un peu complexes, mais vraiment une personne qui est totalement étrangère à la convention d'arbitrage. On ne peut pas admettre ça au plan théorique. Puis ça, c'est unanimement reconnu. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment ce que prévoit l'article 172. L'article 172 ne prévoit pas l'octroi d'ordonnance qui lierait d'autres parties. 172 prévoit l'octroi d'ordonnance qui pourrait bénéficier à des tiers, qui pourrait être à l'avantage de tiers, comme par exemple l'ordonnance qui, hypothétiquement, aurait condamné TELUS à rembourser certaines sommes d'argent, non seulement à Mme Seidel, mais à toutes les autres personnes qui auraient pu être affectées par la pratique illégale en cause. Mais il n'y a aucune raison pour moi de penser qu'un tribunal arbitral, un tribunal privé, pourrait ne pas avoir le pouvoir de rendre une ordonnance, non pas qui lierait des tiers, mais qui pourrait conférer certains avantages à des tiers. Et encore là, le raisonnement de la Cour suprême sur ce point-là m'apparaît un peu incomplet et donc non convaincant. Donc, sur la question quand même assez importante, en raison de son lien avec la légitimité de l'arbitrage, de l'arbitrabilité du litige sous 172, moi, ça m'a vraiment donné l'impression que les juges majoritaires ne considéraient pas vraiment que le recours à l'arbitrage était particulièrement important. Ils ne considéraient pas qu'une conclusion d'inarbitrabilité nécessitait une motivation particulièrement développée, particulièrement étoffée. Et je pense que c'est pour cette raison-là que je vois un indicateur traditionnel d'une résurgence, d'une certaine méfiance envers l'arbitrage et très certainement d'une revue à la baisse, si vous voulez, de l'importance qui est accordée au droit de recourir à l'arbitrage dans les ordres juridiques canadiens. Troisième et dernier point, troisième et dernier aspect de l'analyse que fait de la Cour de la question de l'arbitrabilité qui, pour moi, est importante et porteur de leçons plus générales, même pour nous, au Québec, c'est ce que je qualifie de désengagement de la Cour suprême face au développement de l'arbitrage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, avant l'arrêt Seidel, la Cour suprême avait à plusieurs reprises adhéré à l'idée selon laquelle les juges avaient une certaine responsabilité, avaient un certain rôle à jouer pour promouvoir le développement de l'arbitrage. On peut remonter en 1997 dans cette affaire Burlington Northern Railway, où la Cour avait adhéré à un courant jurisprudentiel décrétant l'existence d'une politique très favorable à la mise en œuvre et au respect des conventions d'arbitrage. Et ça, c'est ce « very strong public policy », pour reprendre les termes de l'arrêt que la Cour suprême avait approuvé dans cette affaire-là. Ça, c'est une pure création jurisprudentielle. Donc, c'est pour ça qu'on peut y voir une confirmation de cette idée-là, que les juges eux-mêmes se reconnaissent une certaine responsabilité de participer au développement de l'arbitrage. C'est encore plus clair dans Desputo. En 2003, la Cour suprême qui adhère à un mouvement, je cite, jurisprudentiel qui, depuis quelques décennies, accepte et même favorise le recours à l'arbitrage, notamment dans les droits occidentaux modernes, tant dans les pays de droit civil et de common law. Donc, encore là, cette idée que, suite aux réformes législatives, le témoin est passé au juge et eux aussi ont une certaine responsabilité pour promouvoir le développement de l'arbitrage et peut-être même plus largement de la justice privée. Deux ans plus tard, en 2005, dans Grécon, encore là, on trouve des passages dans les motifs de la Cour suprême, encore là, unanime, qui semblent, encore une fois, réitérer cette idée-là d'une responsabilité que les juges auraient de favoriser et de faciliter l'application des clauses d'arbitrage dans cette affaire-là. Et là, dans Sider, ce qui est intéressant et particulièrement révélateur pour moi, c'est la réponse que les juges majoritaires donnent aux critiques qui ont été formulées par les juges dissidents. Parce que pour les juges dissidents, c'est très, très clair, c'était vraiment une dissidence assez virulente. L'arrêt majoritaire, pour eux, constitue ni plus ni moins qu'un retour en arrière inexplicable à un temps où les tribunaux exerçaient un monopole en matière de justice, en matière de décision et de résolution de litiges en matière civile. Époque où aussi les arbitres étaient considérés comme étant des décideurs de second ordre, peut-être pas assez bons pour pouvoir trancher tout type de litige. On est même allé jusqu'à, dans la dissidence, accuser les juges majoritaires d'adhérer à un courant d'hostilité vis-à-vis de l'arbitrage, ce qui va peut-être un peu loin, et ce qui mériterait peut-être d'être nuancé. Mais le point, c'est que les critiques ont été formulées de manière très, très forte et de manière très explicite par les juges dissidents. Et dans le contexte de cette jurisprudence antérieure-là, on pouvait voir quand même des raisons assez claires pour lesquelles les juges dissidents se sont exprimés de manière aussi forte. Quelle a été la réponse des juges majoritaires? Elle tient dans une ligne, et pour moi, elle est très, très révélatrice. Après avoir cité ces passages-là, donc on visait directement les allégations qui avaient été formulées par les juges dissidents, les juges majoritaires répondent qu'il ne revient pas à la Cour de promouvoir ou de critiquer l'arbitrage privé ou confidentiel. C'est quand même, quand on met ça en parallèle avec des affirmations comme celles qu'on retrouve dans Desputo ou dans Grécon, pour moi, il y a un message assez clair que la majorité de la Cour suprême envoie. Et il y a très certainement une remise en question, au moins partielle, de l'attitude favorable à l'arbitrage qui avait été manifestée dans des jugements antérieurs. Et pour les praticiens, c'est sûr que si vous avez à défendre une position qui n'est pas la position pro-arbitrage dans un dossier, cette phrase-là vous donne des munitions excellentes, là. Ça ne vous garantira pas, évidemment, que le juge va adopter la position la moins favorable à l'arbitrage. C'est sûr qu'il y a certains juges canadiens qui vont continuer, évidemment, dans un cas difficile, à privilégier la solution qui s'adonne à être la solution qui est la plus favorable à l'arbitrage entre les deux. Mais on perd un argument. On perd cet argument-là additionnel de dire au juge, écoutez, dans le doute, là, n'oubliez pas que vous avez cette responsabilité-là plus large de promouvoir le développement de l'arbitrage. Cet argument n'est plus là. Et on donne clairement des munitions à des parties qui veulent peut-être privilégier un autre principe général que le principe de l'autonomie de la volonté, par exemple. Alors, voilà en gros quelles étaient mes observations sur cette affaire Seidel. Je vous remets à l'écran les 7 conclusions que j'avais tirées au début, qui là peut-être deviennent un petit peu plus précises, en fait, je l'espère, suite à mon exposé. On part à toutes les questions, surtout en matière d'arbitrage de consommation, et Geneviève Saumier aura l'occasion de formuler quelques observations plus précises sur l'arbitrage de consommation. Mais très certainement, selon moi, il est en train de se passer quelque chose à la Cour suprême, qui n'est pas seulement un accident de parcours et qui crée une certaine instabilité, c'est sûr, dans le cadre juridique canadien. Il sera très intéressant de voir comment cet arrêt-là sera reçu par les tribunaux inférieurs, non seulement dans les provinces de common law, mais aussi au Québec. Alors, je vous remercie. Je passe la parole à Geneviève et après, je l'espère, on pourra discuter de cette affaire.
Merci, Frédéric. J'aurais pu passer à travers les 7 points et donner mon opinion sur chacun à tour de rôle, mais je pense que ça ferait un peu trop liste contre liste, alors je vais résister. Le point le plus important que je vais essayer de vous transmettre ce soir ou cet après-midi, c'est que l'arrêt Seidel, ce qu'il fait, à mon avis, c'est pas grand-chose et c'est un peu décevant parce que quand la Cour suprême avait accepté d'entendre l'affaire Seidel, on anticipait que finalement des questions qui étaient demeurées sans réponse ou avec des réponses insatisfaisantes après la décision d'elle seraient finalement résolues par la Cour suprême et malheureusement, c'est pas le cas. Alors, pour moi, c'est une décision qui est fort décevante en ce sens qu'elle décide une question extrêmement étroite, avec très peu de potentiel de déverser ailleurs dans les autres provinces ou dans d'autres domaines de l'arbitrage. Et par ailleurs, elle ignore ou laisse de côté toutes les questions qui demeurent encore, à mon sens, vives et qui demandent une résolution en l'absence d'une intervention législative dans les provinces concernées, notamment la Colombie-Britannique. Je commencerai en disant donc que pour moi, l'arrêt Seidel ne devrait pas inquiéter ceux d'entre vous pour qui l'arbitrage, dans le contexte surtout business to business, qui n'est pas le domaine de l'affaire Seidel, est perçu comme étant le mode de résolution soit privilégié ou encore préférable et pour lequel les tribunaux ont, jusqu'à même, je dirais, encore, vraiment donner un appui significatif et constant. Pour moi, l'arrêt Seidel, c'était une opportunité pour la Cour suprême de dire que l'arbitrage B2B, ce n'est pas l'arbitrage B2C, donc l'arbitrage de consommation, c'est quelque chose de différent qui demande un traitement différent. Pas nécessairement dire que c'est inarbitrable, ce que nie le législateurs québécois ou ontariens ou en Alberta qui ont passé des lois qui protègent l'accès aux tribunaux des consommateurs n'ont pas déclaré inarbitrable, ont simplement déclaré que les consommateurs ne pouvaient pas être contraints au monopole de l'arbitrage, pouvaient avoir un choix du mode de résolution des différends. Et après l'arrêt Dell, cette porte-là semblait avoir été complètement fermée parce qu'à la fois dans la majorité et dans la minorité, on avait rejeté tout argument tendant à dire que les rapports de consommation avaient une particularité qui les distinguait des rapports commerciaux entre parties qui négociaient à part égale, ou encore que les recours collectifs en matière de consommation pouvaient peut-être bénéficier d'un traitement particulier au motif que l'accès à la justice pour les réclamations de consommation de petite valeur était une valeur fondamentale à protéger. Et toutes ces questions auraient pu être abordées par la Cour suprême dans l'affaire Seidel, en fait, avaient été soulevées par les parties, avaient été le fondement de la jurisprudence des tribunaux de Colombie-Britannique jusqu'à l'affaire Seidel. Parce que ce qu'il faut apprécier dans l'historique de cette jurisprudence-là, et ce qui explique pourquoi la Cour suprême a accepté de l'entendre, c'était jusqu'à ce que la Cour suprême rende sa décision dans Dell, les tribunaux de Colombie-Britannique avaient, à répétition, dit que face à des clauses d'arbitrage qui imposaient aux consommateurs de poursuivre de manière individuelle leur réclamation contre les commerçants, face à ces clauses-là, les cours d'appel de Colombie-Britannique, la cour d'appel et les tribunaux inférieurs, avaient dit que c'était incompatible ou qu'il y avait une difficulté d'agencer ça avec la politique en matière de recours collectif et avait eu tendance à donner priorité au recours collectif. Donc, déclarer inopérantes les clauses d'arbitrage pas parce qu'ils étaient contre l'arbitrage, mais parce que sinon, il semblait que les consommateurs n'avaient aucune option pour faire reconnaître leurs droits s'ils auraient éventuellement gain de cause. Alors, l'arrêt Seidel, il se rend à la Cour suprême parce que les tribunaux de Colombie-Britannique se sont sentis obligés de mettre fin à ce courant jurisprudentiel qu'ils avaient développé, donnant préférence au recours collectif en matière de consommation contre l'arbitrage en matière de consommation à cause de l'affaire Dell. En fait, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a été invitée à reconsidérer deux décisions qu'elle avait rendues dans l'affaire Seidel et une autre affaire dans l'affaire McKinnon à la lumière de la décision d'Andell. Et la Cour d'appel de Colombie-Britannique a conclu que sa jurisprudence précédente était incompatible avec la décision de la Cour suprême d'Andell, selon laquelle le recours collectif n'avait pas préséance sur l'arbitrage, et donc a dû changer de position. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la Cour suprême a accepté d'entendre l'affaire Seidel, parce qu'il y avait un débat sur l'effet de la décision d'Andell, qui était une décision du Québec, dans les provinces de common law, qui n'avaient pas adopté de législation contrôlant l'arbitrage de consommation, dont la Colombie-Britannique. Donc, on peut comprendre pourquoi, en tout cas certainement moi qui m'intéresse à l'arbitrage de consommation, quand ils ont accepté de l'entendre, j'ai dit, bon, ils vont se prononcer. Moi, j'ai pris pour acquis qu'ils se prononceraient dans la même lignée que Dell, qui n'est pas nécessairement ma préférence au niveau du résultat, mais qu'il y aurait une continuité. Et de ce côté-là, je peux vous dire que je pense que c'est exactement ce que la Cour suprême a fait. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, et Frédéric l'a dit, vous l'a rapporté, mais ça vaut la peine de le mentionner, à deux reprises dans son jugement, au paragraphe 7 et au paragraphe 11, donc au tout début des motifs de la décision majoritaire, le juge Béni, qui écrit les motifs majoritaires, nous dit de façon presque comme une évidence, that as to her alternative complaints, je m'excuse, c'est la version originale anglaise que je vous lis, as to her alternative complaints, donc toutes celles à l'exception des demandes en vertu de l'article 172 dont a discuté Frédéric, all these other complaints, the TELUS arbitration clause is valid and enforceable. Period. Puis il dit, c'est à cause de Commercial Arbitration Act. Her actions should be stayed pursuant to Section 15. Une phrase, c'est la même phrase dans le paragraphe précédent, une phrase qui évacue, élimine toute la jurisprudence des tribunaux de cour d'appel, des tribunaux de Colombie-Britannique, presque toutes, j'imagine, je n'ai pas regardé les plaidoiries, mais j'imagine si je me base sur la nature des mémoires présentées par les parties, toute cette argumentation sur le lien à faire entre l'arbitrage et le recours collectif en matière de consommation, il n'y a rien. C'est un vide complet. Donc, je vois difficilement comment on peut lire l'article, l'arrêt Seidel et TELUS et penser que la Cour suprême traite différemment le B2C et le B2B d'une part, ou revient sur son adhérence à l'arbitrage comme étant un mode de résolution légitime des différends qui, en principe, devrait être appuyé par les tribunaux. Une phrase. Évidemment, tous ces autres cours vont à l'arbitrage. It goes without saying. Bon, néanmoins, c'est clair qu'il y a un retrait par rapport à Dell. Puis je pense que Frédéric l'a bien démontré, que l'argumentation utilisée par la Cour suprême par rapport à la particularité de l'article 172 est difficilement conciliable avec ce que la Cour suprême avait dit dans le passé sur l'utilisation de phrases comme « un recours pourra être intenté devant tel tribunal ». Donc, je comprends son inquiétude par rapport à la résurrection de ce type d'argument qui semblait avoir été mis au rencard. Toutefois, même par rapport à cet argument-là, moi, je le trouve de portée extrêmement limitée. Et c'est là où peut-être le lien avec le droit de la consommation ressurgit. Au Canada, on a un développement de droit de la consommation que je dirais assez moyen. On n'est pas les dispositions les plus protectrices. Au Québec, on est peut-être particulièrement moderne par rapport aux autres provinces. Mais comparé, par exemple, à l'Europe ou même aux États-Unis, c'est encore le modèle contractuel qui prime pour les recours en matière de consommation. Donc, on a juste calqué avec certains correctifs ce qui se passe dans le domaine contractuel. Mais il commence à y avoir des changements et l'article 172, c'en est un exemple. Et au Québec, plus récemment, peut-être qu'il a fallu que je le cherche parce que c'est encore avec les amendements de juin de l'année dernière, c'est encore nouveau, l'article 316 de la loi sur la protection du consommateur qui donne finalement le pouvoir au président de l'Office de la protection du consommateur, le pouvoir de demander des injonctions, mais aussi qui accorde ce pouvoir-là à un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an. Donc, l'article 172 de Colombie-Britannique et l'article 316 de la LPC, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils passent du modèle contractuel à un modèle plus réglementaire, c'est-à-dire en accordant des pouvoirs à des organismes soit gouvernementaux ou des organismes privés, des associations des consommateurs sont des organismes privés, des pouvoirs de veiller à la mise en œuvre, au respect des dispositions qui protègent les consommateurs. Et ça, ça rejoint le modèle européen où depuis très longtemps, en l'absence de recours collectifs qui ont, au Québec et ailleurs, au Canada et aux États-Unis, agi un peu comme la mise en œuvre privée des protections pour les consommateurs. Donc, en Europe, ce sont les associations de consommateurs qui ont depuis longtemps la charge de protéger l'intérêt général des consommateurs et non pas les intérêts individuels. Et c'est donc cette dimension publique, comme l'a expliqué Frédéric, de l'article 172 qui a accroché la Cour suprême dans l'affaire Seidel. Et pour moi, c'est ce qui vient expliquer pourquoi elle a trouvé peut-être excessif la délégation complète que la Cour suprême, la jurisprudence de la Cour suprême avait donnée à l'autonomie des partis et à l'arbitrage, et dont Dell est un des exemples, si vous voulez, peut-être les plus généreux. La Cour suprême, à la fois la majorité et la minorité dans l'affaire Dell, a vraiment donné tout l'espace à l'arbitrage et a éliminé toute protection pour les partis potentiellement vulnérables dans le rapport de force de négociation, notamment les consommateurs, et a dit que c'était uniquement le législateur qui pouvait opérer cette protection-là. Dans l'affaire Seidel, peut-être, puis j'en suis pas certaine, puisque sur tous les autres aspects, ils ont dit arbitrage, pas de problème, aucun encadrement, ils semblent dire, bon, dans certains cas, lorsque ce qu'on vise, c'est l'intérêt général des consommateurs et non pas des intérêts individuels, ou c'est un intérêt public dans le sens de la mise en œuvre d'une réglementation du marché, que peut-être que dans ce cas-là, l'arbitrage privé consensuel est inadapté. À mon sens, c'est extrêmement étroit. Il y a jusqu'à date, à ma connaissance, deux provinces qui ont une disposition au Québec seulement depuis juin 2010 qui accorde ce genre de recours d'intérêt public. Et donc, je vois mal comment il y a un risque là, de débordement. Mais c'est sûr que, bon, on dira « the thin edge of the wedge », les phrases que vous a citées, Frédéric, c'est sûr qu'elles peuvent donner un nouvel argument à des parties qui cherchent à éviter une clause d'arbitrage. Mais de là à dire que le risque est grand, il me semble que tout le reste de l'affaire Seidel sur le recours évidemment à l'arbitrage pour les questions de droit privé me semble être un bémol important. Alors, qu'est-ce qui reste après l'arrêt Seidel? Frédéric l'a mentionné et je pense que c'est un peu comme ce que je disais, ce dont la Cour suprême n'a pas parlé, et c'est cette question de la consolidation. Alors, jusqu'à date, on a vu un débat entre la consolidation dans le contexte du recours collectif judiciaire et l'arbitrage. Pourquoi? Mais parce que les clauses d'arbitrage peuvent éliminer, si vous voulez, l'option pour le consommateur d'obtenir gain de cause ou d'avoir son recours, puisque un recours pour 30$, je pense que c'était essentiellement la valeur du recours individuel dans l'affaire Seidel, c'est un recours non existant. Personne ne va même aller en arbitrage pour 30$. Alors, la consolidation, c'est vraiment au cœur du débat. Est-ce qu'on doit traiter le B2C différemment du B2B? Et si on regarde l'historique de l'arbitrage en matière de consommation, on peut voir que c'est une question qui est tout à fait justifiée. L'arbitrage de consommation, il nous vient d'où? Mais il nous vient des États-Unis. Et aux États-Unis, les commerçants ont commencé par introduire des clauses d'arbitrage. Et ensuite, quand ils ont réalisé qu'il y avait un problème avec les recours collectifs, ils ont introduit des no class action ou des class action waivers. Et là, quand il y a eu des avocats innovateurs qui ont dit, ah, on doit aller en arbitrage, on ne peut pas avoir de recours collectif, ah, on va faire des arbitrages collectifs, des class arbitrations, qu'est-ce que les avocats ont fait? Mais ils ont inséré des no consolidation clauses dans les contrats de consommation. Et c'est intéressant de voir que dans le domaine du cellulaire, toutes les compagnies américaines, puis il y en a pas mal plus, au Canada, il y en a trois qui ont 96 % du marché. Aux États-Unis, il y en a une dizaine. Il n'y en a pas une qui a plus que 19 % du marché. Mais toutes les compagnies de cellulaire américaines, elles ont des clauses d'arbitrage avec des class action et consolidation waivers. Okay. Alors, il faut regarder d'où ça vient pour savoir qu'est-ce qui arrive ici. Dans TELUS, il n'y a pas de consolidation waiver. Il y a un class action waiver. Donc, ça veut dire, est-ce que potentiellement, Mme Seidel, qui a été déboutée de son option d'intenter un recours collectif, pourrait demander un arbitrage collectif? Okay. Ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la réponse. Le problème que j'ai avec cette idée, même théoriquement intéressante, c'est que la clause d'arbitrage dans TELUS, c'est un arbitrage ad hoc. Ce n'est pas un arbitrage institutionnel. Ce n'est pas surprenant, au Canada, on n'a pas vraiment d'institutions de la même envergure que le AAA, par exemple, aux États-Unis. Alors, imaginez l'arbitre qui se fait présenter avec une demande d'un arbitrage collectif. On connaît la complexité de la réglementation des recours collectifs. Est-ce qu'il va utiliser la procédure des recours collectifs judiciaires et l'appliquer à son arbitrage? S'il ne le fait pas, il y a des risques de violation de justice naturelle. On peut imaginer toutes sortes d'objections sur la base de procédures déficientes. On pourra peut-être regarder l'arrêt de la Cour suprême dans Dutton qui a dit même en l'absence d'une loi, la possibilité de recours, de consolidation des recours est possible. Mais je trouve ça un peu inquiétant de dire « Oh, bien, ils sont corrects, ils vont faire un recours, un arbitrage collectif », alors que la clause A ne le prévoit pas et il n'y a pas vraiment d'encadrement pour ce genre de recours-là. Encore une fois, on peut regarder du côté des États-Unis et dire, bon, comment est-ce que ça peut fonctionner alors aux États-Unis? Mais avant que les avocats insèrent des « no consolidation clauses », les institutions d'arbitrage, notamment le AAA, mais aussi d'autres, ont développé des règles de procédure pour les arbitrages de consommation collective. En fait, ils ont même des règlements spéciaux pour les arbitrages de consommation. Parce que les institutions d'arbitrage américaines, qui sont des sociétés privées, pas toutes à but lucratif, mais le AAA, par exemple, c'est un organisme à but non lucratif, reconnaissent que l'arbitrage de consommation, ce n'est pas l'arbitrage commercial traditionnel. Et ils ont des règles très spécifiques qui imposent, par exemple, que le commerçant paie tous les frais liés à l'arbitrage, qu'on réserve toujours la possibilité pour le consommateur d'aller devant un tribunal des petites créances, et qui souvent aussi ont toutes sortes d'autres protections pour le consommateur afin de faciliter son accès, par exemple, aux procédures, assurer une audience, s'il y en a une, souvent il n'y en a pas, à un endroit près de son domicile. Alors, le développement de l'arbitrage de consommation aux États-Unis est fort différent, et le problème, c'est que, il me semble, en tout cas, la Cour suprême du Canada a adopté l'approche pro-arbitrage de la Cour suprême américaine sans remarquer tous les autres aspects de l'arbitrage qui se sont développés du côté de l'arbitrage de consommation. Alors, qu'est-ce qui reste sur cette question des class action waivers? Bien, il reste qu'on ne le sait pas. La Cour suprême dans l'affaire Seidel ne s'est pas vraiment prononcée sur cette question-là, sauf, il me semble, de manière implicite, en disant, mais Mme Seidel doit aller à l'arbitrage pour ses demandes basées sur le droit commun. Il me semble que ça exclut l'option pour elle de s'objecter au motif qu'il y avait un class action waiver. Je ne vois pas l'espace dans la décision de la Cour suprême pour faire ressurgir cet argument-là, sauf si elle demande à l'arbitre de consolider des recours, que l'arbitre refuse, là peut-être qu'il pourrait y avoir une objection devant le tribunal pour une violation de, comme la clause n'en parle pas, un droit fondamental à la consolidation, c'est peut-être une option. Alors, pour moi, l'arrêt Seidel, il renvoie la balle au législateur, mais il dit que les tribunaux n'ont pas grand-chose à dire sur la plupart des dimensions des recours, de l'arbitrage, même si ce sont des arbitrages de consommation. C'est juste dans des cas exceptionnels comme celui-ci, où on a un recours qui vise l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier, qui est intenté au nom d'une collectivité qui implique des remèdes qui sont plus de nature judiciaire que privée, même si on peut penser que l'arbitre serait en mesure de les utiliser. La solution, il me semble, c'est donc pour le législateur de penser à un meilleur encadrement, parce que ça ne va pas venir des tribunaux. Au Québec, le législateur a parlé en matière de consommation. Le consommateur doit pouvoir choisir. Il peut choisir l'arbitrage, il peut choisir le judiciaire, il peut choisir le recours collectif. C'est la même chose en Ontario, puis essentiellement en Alberta. Cet encadrement-là, il pourrait prendre toutes sortes de formes, pourrait, en créant des institutions arbitrales, donner vraiment une opportunité au consommateur de choisir l'arbitrage. Parce que là, le consommateur québécois qui voudrait choisir l'arbitrage, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il choisit. Et le modèle des institutions américaines en est un qui démontre que ça peut être une autoréglementation. Le AAA a choisi d'adopter des règles sur l'arbitrage de consommation, des procédures pour la consolidation de ces recours-là, sans les avoir sans qu'elles aient été imposées par des législateurs. Donc, d'une certaine façon, il me semble que c'est un peu à la communauté, finalement, de l'arbitrage, de promouvoir l'arbitrage de consommation en l'encadrant d'une façon qui le rende peut-être plus accessible et légitime. Puis, je vais finir avec une analogie avec l'arbitrage d'investissement, puis je suis contente que tu aies utilisé ça, parce que, justement, je vois une belle analogie. L'arbitrage d'investissement, en vertu du chapitre 11 de l'ALENA, était conçu à l'origine comme un arbitrage ad hoc consensuel. Exactement comme les arbitrages commerciaux B2B normal. Mais avec les années, les gens se sont objectés au motif que ce n'étaient pas les mêmes intérêts dans les litiges d'investissement, dans les arbitrages d'investissement, que dans les arbitrages de nature commerciale. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est qu'il y a eu une mutation. L'arbitrage d'investissement, il est resté de l'arbitrage, mais il a changé de forme, les conditions ont changé. Il est devenu public, on a permis des intervenants, les choses que tu mentionnais pourraient se faire. Okay? La publicité des procédures, la publicité des sentences. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, mais l'arbitrage de consommation, c'est un arbitrage qui implique des intérêts différents et donc qui devrait avoir un cadre différent, comme on l'a fait avec l'arbitrage d'investissement. Ça ne nécessite pas de remettre en cause l'arbitrage, mais ça nécessite de reconnaître la particularité de ces relations économiques-là, et de dire qu'elles ne peuvent pas être traitées et sur le même pied d'égalité que des contrats commerciaux, des contrats internationaux. Ce qui, à mon sens, la Cour suprême, dans sa jurisprudence jusqu'à date, a fait. Desputo, Grécon, etc., ce n'est pas des affaires de consommation. La seule affaire de consommation qu'il y a, c'est l'affaire Dell. Et l'affaire Dell a refusé de considérer que ça pouvait être une situation différente. Et pour moi, c'est là où elle a erré, et Seidel ne vient rien changer, à mon avis, à cette circonstance-là. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on a assez de temps pour une discussion ouverte. Je vais commencer par donner la chance à Frédéric Vachon de rebondir s'il le désire tout de suite. Sinon, je vais directement vers la salle.
Et je vois que le professeur Stephen Scott est avec nous. Il y a des questions qui suscite son intérêt. Il y en a une que j'aimerais lui poser éventuellement pour plus tard. C'est un passage de l'arrêt de la Cour suprême qui nous dit sans aucun argument que les arbitres, bien sûr, peuvent émettre des injonctions. Alors, évidemment, on sait que la jurisprudence de la Cour suprême a émis à certaines époques, certaines réticences à étendre l'idée le remède de l'injonction au-delà des cours supérieures sur la base de l'article 96 de la Constitution.
Les cours supérieures ne peuvent pas, à cause de l'article 96 de la loi constitutionnelle de 1867, je vois difficilement comment des arbitres pourraient le faire. On pourrait les dire, ce sont des ordonnances d'espèces ou de différentes variétés sans être de vraies injonctions. On pourrait jouer un peu avec ça. Mais ma question, c'était pour Frédéric. Supposons que la décision de la Cour suprême était que oui, le 172 est arbitrable, mais néanmoins, vu son caractère d'ordre public, les arbitres doivent être ensuite assujettis à la révision judiciaire rigoureuse sans qu'ils aient aucun droit de s'écarter aux interprétations que pourrait porter par les tribunaux sur les questions de droit, sans qu'ils pourraient décider, je ne sais pas, déraisonnablement sur la preuve, savoir si la preuve est adéquate, etc., mais que néanmoins, des décisions arbitrales sur la 172, vu son caractère d'ordre public, soit révisable judiciairement, rigoureusement.
C'est sûr que dans le cadre législatif actuel, le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public est prévu. Et quelle que soit la matière, évidemment, on peut toujours rechercher l'annulation, attaquer une sentence arbitrale en prétendant que les arbitres ont rendu une décision qui est contraire à l'ordre public. Et c'est sûr que dans un contexte comme celui-là, où clairement les règles applicables sur le fond sont des règles d'ordre public, bien, l'hypothèse d'un éventuel contrôle judiciaire fondé sur l'ordre public est tout à fait, réaliste si, évidemment, on avait conclu à l'arbitrabilité de ces litiges-là. Mais il reste que le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public est un contrôle qui est assez restreint. Ça, encore une fois, la Cour suprême l'avait dit dans Desputo, qui ne va pas jusqu'à permettre d'annuler une sentence au motif que les arbitres auraient peut-être mal évalué la preuve ou tiré des conclusions déraisonnables au niveau des faits. Mais c'est sûr que les conclusions de droit sur des points d'ordre public peuvent être révisées et doivent pouvoir être révisées par les tribunaux judiciaires, parce que l'arbitrage peut pas, on pourrait pas accepter que l'arbitrage puisse être utilisé comme moyen qui permettait de contourner complètement une réglementation d'ordre public. Donc ça, ce point-là, moi, je le reconnaîtrais sans problème parce que le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public est là, doit être là. Et c'est sûr que dans une certaine mesure, ça permet une révision du fond, c'est certain, sur les conclusions de droit. Et ça porte atteinte à l'autonomie du processus arbitral lorsqu'on permet l'arbitrage dans des matières comme celle-là, mais ça aurait été parfaitement envisageable. Donc, la Cour suprême aurait pu dire tout ce qu'on exige, c'est que l'arbitrage soit public, sous 172. Alors, on ne donne pas effet à la clause de confidentialité. On permet le recours à l'arbitrage, sachant très bien que nous, les juges, a posteriori, une fois l'arbitrage complété, on pourra toujours vérifier si ce que le tribunal arbitral a décidé est suffisamment conforme aux principes et règles générales d'ordre public qui se dégagent de la loi sur la protection du consommateur. Et ça, c'est la solution qui était probablement envisagée par les juges dissidents, par la Cour d'appel de Colombie-Britannique aussi, même si eux ne se sont pas prononcés directement sur la question de la confidentialité. C'est un peu comme ça qu'on envisageait l'arbitrage dans une situation comme celle-ci.
J'apporterai peut-être une précision sur le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public. C'est le fait que dans Desputo, la Cour suprême a affirmé essentiellement le droit des arbitres à l'erreur dans l'application des règles d'ordre public. Donc les arbitres ont la possibilité d'appliquer des règles dites d'ordre public et ont même droit à l'erreur dans l'application des règles d'ordre public, dans la mesure où la sentence qui est rendue, dans la mesure où l'intégration de cette sentence à l'ordre juridique étatique ne serait pas attentatoire à l'ordre public.
C'est ça qui me donne le droit à l'erreur sur le droit.
Il y a un exemple que j'utilise en classe pour clarifier ça, c'est imaginez un cas où, imaginez qu'au Québec, en matière de consommation, il n'y avait pas l'article 11.1 de la loi sur la protection du consommateur. Imaginez qu'il y a un différent de consommation qui va à l'arbitrage. Imaginez que les arbitres, erronément, appliquent la loi sur la protection du consommateur font bénéficier la loi sur la protection du consommateur à une compagnie. Alors, imaginez que si la partie demanderait, c'est un exemple hypothétique, ça n'arriverait pas en pratique, mais imaginez que c'est une compagnie, une personne morale qui invoque la protection de la loi sur la protection du consommateur, qui est évidemment pas applicable à des entités corporatives. Puis imaginez que l'arbitre se trompe et dit « oui, c'est effectivement applicable à votre situation ». Alors, il y aurait erreur dans l'application d'une norme d'ordre public, mais ce n'est pas un résultat qui est contraire à l'ordre public.
parce que ça ne choque pas l'ordre public d'erronément étendre le domaine d'application d'une réglementation d'ordre public. Cependant, si on avait un véritable consommateur, une personne physique, qui invoque la protection de l'eau sur la protection du consommateur dans le cadre d'un arbitrage et erronément la protection ne lui est pas accordée, bien là, la sentence elle-même serait contraire à l'ordre public. Parce que l'objectif de la loi sur la protection du consommateur, son domaine d'application aurait été écarté, aurait été ignoré, méconnu par le tribunal arbitral.
Alors, je vais moi-même rebondir. D'abord, j'ai beaucoup apprécié cette remarque selon laquelle il faut regarder d'où ça vient pour savoir où ça va. dans le domaine de l'arbitrage sur l'investissement, effectivement, on a pu constater, à mon sens, l'exportation du modèle de l'arbitrage commercial vers un système d'arbitrage privé-public. L'exportation s'est faite sans trop se poser de questions et les adaptations se sont faites après coup. Hein. Et je pense que essentiellement, c'est ce que la Cour suprême, je suis tout à fait d'accord avec Geneviève, lorsqu'elle dit que la Cour suprême a importé en fait un modèle d'arbitrage commercial dans un domaine qui pourrait très bien être considéré comme tout à fait distinct et répondant à une logique complètement différente que la logique de l'arbitrage commercial. Alors moi, j'ai toujours été assez mal à l'aise avec l'idée américaine de traiter l'arbitrage de consommation sur le même pied que l'arbitrage commercial et en fait de traiter le contrat de consommation sur le même pied que le contrat commercial. Mais je pense que la Cour suprême est assez profondément engagée aujourd'hui dans cette voie. Il est assez difficile, je pense, de revenir en arrière là-dessus. Je vais revenir sur un point en posant une question à Frédéric sur la clarté de la situation après l'arrêt Seidel. Quand on dit que la situation est moins claire parce qu'un argument supplémentaire, et ça c'est les mots de Geneviève, a été donné à la personne qui voudrait échapper à une convention d'arbitrage, on peut toujours prétendre que le législateur, de manière implicite, a exclu l'arbitrage d'un certain domaine. Et là, on revient à cette présomption d'interprétation selon laquelle, et ça, c'est la formulation qu'on retrouve dans la jurisprudence antérieure à Seidel, et c'est la formulation qu'on retrouve dans la dissidence également, une présomption selon laquelle le législateur est présumé laisser la voie ouverte à l'arbitrage, sauf s'il le dit expressément, sauf s'il l'exclut expressément, et donc une présomption d'interprétation qui est essentiellement au même niveau que la présomption qui veut qu'une personne qui a été expropriée reçoive compensation. Hein, une présomption d'interprétation très, très, très forte. Mais cette présomption d'interprétation, elle a été avancée comme ça par la jurisprudence de la Cour suprême, mais elle ne tient pas compte, à mon sens, de plusieurs domaines où il est clair que les litiges sont inarbitrables et où le législateur n'a jamais prononcé le mot « arbitrage » dans sa loi. Et on peut prendre les exemples du droit criminel, où les questions ne sont pas vraiment arbitrables et où il n'est jamais dit de manière explicite, dans aucune législation, que la matière est inarbitrable. Il en va de même du droit fiscal, c'est un autre exemple. Du droit de la faillite, où il y a certains éléments qui sont clairement pas arbitrables et où le législateur n'a jamais rien dit de l'arbitrage, n'a jamais exclu de manière expresse l'arbitrage. Et donc, cette présomption que la Cour suprême avance dans sa jurisprudence, en fait, elle ne correspond pas du tout à la réalité et au droit qu'on connaît comme étant assez évident dans l'ensemble du Canada. Alors, je lance cette question-là. Est-ce que cette présomption a du sens? Est-ce que, en fait, aujourd'hui, les choses ne sont pas plus claires qu'elles ne l'étaient avant, en attirant l'attention du justiciable sur le fait que on n'est pas obligé de trouver le mot « arbitrage » ou « arbitrabilité » dans une loi pour conclure à l'inarbitrabilité?
Bien, c'est sûr que c'est une bonne question. Puis la présomption qui avait été dégagée dans Desputo était
pouvait être critiqué pour cette raison-là. On pouvait voir là peut-être un excès d'enthousiasme de la Cour suprême par rapport à l'arbitrage. Mais il reste que quand on prend des exemples comme le droit criminel, même, je dirais même la faillite pour des véritables questions de faillite, le noyau dur de la faillite, il semble y avoir une incompatibilité fondamentale et très, très claire entre l'arbitrage, le recours à une procédure privée qui n'est pas collective, si on prend l'exemple de la faillite, et les principes fondamentaux qui sous-tendent le droit criminel et le principe fondamental en matière de droit de la faillite qui vise à éviter l'éparpillement du contentieux pour concentrer tous les litiges devant un seul et même juge spécialisé. Donc, dans ces domaines-là, c'est sûr que la présomption de disputo, les juges, s'ils avaient été confrontés à cette question-là, auraient dû probablement reconnaître l'existence d'exceptions à la présomption de disputo. Mais quand je regarde une situation comme celle-ci, quand on regarde l'arbitrabilité des réclamations fondées sur 172, on en a la preuve dans ce dossier-là. On a posé la question. Plusieurs juges se sont prononcés sur cette question-là. Et les juges en cours d'appel, les juges dissidents n'ont vu aucune incompatibilité fondamentale entre l'arbitrage et ce type de réclamation-là. Alors, voilà un exemple de situation où la présomption de disputo, je crois, apportait une certaine stabilité dans le droit. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas répondre de manière satisfaisante à toutes les questions, mais hormis les cas évidents où tout le monde dans la salle aurait dit bien, évidemment que le droit criminel ne peut pas être arbitrable, puis que la faillite pour les questions vraiment, vraiment, de ce qu'on appelle les core bankruptcy issues dans la jurisprudence américaine, la très grande majorité des personnes ici auraient, de manière instinctive, répondu il faut qu'on exclue l'arbitrage dans ces matières-là. Là, ici, on est dans des matières où c'est pas aussi évident qu'il y a une incompatibilité fondamentale. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Et c'est là où je crois que la présomption de disputo quand même stabilisait d'une certaine manière le droit et le raisonnement sur ces questions-là.
Oui. Attendez le micro, s'il vous plaît.
Je voulais simplement mentionner que la présomption dans les puteaux est à lire aussi avec l'article 2639. Alors, ce n'est pas nécessairement tout qui est arbitrable. Et on parle de faillite de droit criminel, c'est évident que c'est visé à 2639. La faillite, en partie, tout au moins.
Ouais. Est-ce que le droit criminel est visé par le Code civil?
Oui, c'est ça, une des questions.
Quand on parle de matière d'ordre public, le Code civil déborde de son contenu. Il y a des lois comme, je ne sais pas, on peut penser à la loi sur le curateur public ou certaines lois d'ordre public qui, à mon avis, c'est ça que vise l'article protégé et ne pas... C'est définitivement une limitation du législateur à l'arbitrage.
Oui. Alors, est-ce que la question que votre intervention suscite, c'est de savoir est-ce qu'il y a une différence, justement, entre le droit québécois et le droit dans les autres provinces sur ce point, sur la question de la présomption.
Je ne serai pas sur le droit des autres provinces, mais au Québec, on a quand même une explication ou un fondement légal, juridique, législatif pour mettre des limites à la présomption.
Tout à fait.
Je crois comprendre qu'au Québec, la situation est particulière, mais est-ce que, s'il n'y avait pas une situation particulière ici, la portée de la RCEDA, ça ne vient pas dire, dans une situation où tu as une clause, un contrat d'adhésion, et du moment que tu as des effets sur des tiers, on va tomber dans un champ qui est non arbitrable, est-ce que ça ne peut pas être une conclusion qui serait simple, mais qui aurait cette portée-là?
Bien, on peut certainement dire que vous avez un argument que vous n'aviez peut-être pas avant Seidel pour soutenir cette conclusion-là. L'argument que la décision à être rendue pourrait affecter peut-être pas les droits des tiers, mais les intérêts des tiers, pourrait être une justification suffisante pour exclure le recours à l'arbitrage en l'absence d'une mention explicite dans la loi. Ça, c'est un argument qui était, à mon avis, assez irrecevable avant Seidel, devient maintenant recevable. Est-ce qu'il serait convaincant? Je pense qu'il faudrait préciser l'hypothèse pour voir si dans les circonstances propres de cette affaire-là, il y aurait vraiment une question d'intérêt des tiers suffisamment importante pour justifier qu'on exclue l'arbitrage. ça peut être une question plus difficile, mais certainement, un des enseignements de Seidel, c'est que cet argument-là devient recevable. En tout cas, il est plus recevable qu'il l'était avant que Seidel ait été rendu. Donc, si vous êtes dans un dossier où, justement, vous essayez de vous sortir d'une clause d'arbitrage, il s'agit d'une matière qui intéresse l'ordre public ou qui touche à l'intérêt public parce que des tiers pourraient être affectés par la décision, bien là, avec Seidel, vous pouvez essayer de bâtir un argument téléologique ou fondé sur les objectifs de la loi puis une espèce d'incompatibilité entre l'arbitrage et le recours judiciaire dans ces matières-là, justement pour protéger les tiers, qui va peut-être vous permettre de faire du chemin dans votre dossier. Alors qu'avant ça, il aurait probablement été rejeté du revers de la main par le juge sur le fondement de Desputo.
On a abordé aussi la question de l'arbitrage collectif. Est-ce qu'il s'en fait de l'arbitrage collectif ici au Québec où il n'y a rien, c'est ce que je comprenais, mais oui. Il n'y a pas de...
Pas notre connaissance. Ça a été, on en a parlé, il y a eu des colloques. Il y avait un colloque en 2004 ou 2005. Les journées Maximilien Caron à l'Université de Montréal étaient sur l'arbitrage collectif parce que ça commençait à se développer aux États-Unis. Oui, parce qu'aux États-Unis, bon, il y a beaucoup de problèmes au niveau des institutions, puis la Cour suprême aussi, c'est qui est pas très très favorable au recours collectif, comme vous savez peut-être. Il est venu limiter l'accès, si vous voulez, à l'arbitrage collectif. Mais au Canada, on en parlait, puis je me souviens, il y avait même des juges dans la salle qui trouvaient que c'était quelque chose d'intéressant là, d'envisager un arbitrage collectif, parce que eux sont surchargés à Cour supérieure à Montréal avec ces recours collectifs-là, puis ils se disaient, ben si on peut peut-être en transférer une coupe à des tribunaux arbitraux, ça serait intéressant. Mais la réponse courte à votre question, c'est non. La pratique, c'est jamais développé, mais c'est assez complexe. On peut imaginer, en théorie, une procédure d'arbitrage collectif qui est satisfaisante. Il faudrait qu'elle soit publique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait les avis dans les journaux pour aviser les membres du groupe de l'existence d'une procédure. Il faut qu'on puisse pouvoir exercer notre droit de se soustraire au recours collectif si on considère que c'est dans notre intérêt et tout. C'est sûr qu'il y aurait un contrôle judiciaire. Il faudrait qu'il y ait un contrôle judiciaire plus serré que dans le cadre d'un arbitrage normal, mais ça serait assez complexe à aménager, surtout en l'absence, comme Geneviève le mentionnait, d'une institution d'arbitrage vraiment dynamique, parce qu'on n'en a pas vraiment au Québec une institution d'arbitrage qui est assez, qui a les moyens et les ressources pour administrer des arbitrages collectifs. Ça serait assez surprenant que la pratique se développe vraiment ici. Mais en théorie, c'est un modèle qui est intéressant pour peut-être désengorger les tribunaux d'une certaine façon, puis permettre d'accroître notre accès au recours collectif aussi. Mais ça nécessiterait beaucoup d'aménagement quand même.
Je voudrais revenir sur votre question de présomption d'arbitrabilité. Je pense à l'arrêt Assier-Leroux qui est antérieur à Desputo et évidemment au recours d'un actionnaire minoritaire sous 241, et ça va sûrement refaire surface avec une nouvelle loi québécoise sur les sociétés par action. Est-ce que donc cette présomption qui est postérieure à Assier-Leroux permettrait justement de revoir Assier-Leroux et de considérer arbitrable ou faire partie des moyens disponibles à un actionnaire minoritaire et à un arbitre saisi de ça, des différents recours qui sont prévus à 241. Est-ce qu'on pourrait revoir, reconsidérer ça avec l'arbitrabilité, la présomption d'arbitrabilité?
Ça, on pourrait toujours essayer. On pourrait essayer de convaincre la Cour de revoir ça. Je pense qu'on aurait plus de chances de convaincre la Cour de revenir sur sa conclusion si le cadre législatif avait changé ou si on présentait, si on pouvait faire des distinctions entre le recours tel qu'il avait été intenté dans Assier-Leroux et le recours tel qu'il est intenté dans notre dossier actuel. Parce que peut-être qu'on pourrait essayer, après Seidel, de venir limiter la portée d'Assier-Leroux pour dire que, par exemple, dans certaines circonstances, les recours des actionnaires minoritaires, si ce qui est demandé correspond à telle ordonnance, c'est arbitrable. Mais là, on ne s'était pas prononcé dans Assier-Leroux quant à savoir si tel genre d'ordonnance aussi est également arbitrable. Et là, au lendemain de Seidel, il faut qu'on regarde ça de manière un petit peu plus serré. Dépendamment du dossier, moi, je n'exclurais pas cette possibilité-là du revers de la main après Seidel.
Je me souviens d'un épitaire d'un juge dans Assier-Leroux, il avait dit peut-être qu'un arbitre pourrait se saisir, se prononcer sur des moyens sous 241, mais je suis pas prêt à le dire maintenant. Et mais c'est en avant donc cette notion d'arbitrabilité, de présomption d'arbitrabilité.
Je ne connais pas très bien de ces recours-là, mais il me semble que dans le cadre de ces recours-là d'actionnaires minoritaires, on peut demander à la fois des ordonnances assez classiques, mais aussi des ordonnances un peu plus flyées là, qui peuvent sortir du droit commun. Et c'est, je pense, là où les questions d'inarbitrabilité pourraient se poser de manière plus éclatante, là, parce que si on a un recours d'actionnaire minoritaire, mais qui recherche une ordonnance qui ne pose pas vraiment de problème au niveau de l'intérêt des tiers, quoi que ce soit, qui ne nécessiterait pas aussi un suivi judiciaire serré, je ne vois pas pourquoi ça poserait des problèmes fondamentaux, mais quand on sort des sentiers battus, c'est là où on commence à avoir des arguments sur le fondement d'arrêt comme Seidel, qui sont potentiellement plus convaincants.
Alors, peut-être pourrions-nous poursuivre cette discussion au sixième étage. Vous êtes tous conviés à un cocktail quelques étages plus haut. Alors, je vous remercie beaucoup de votre visite à McGill ce soir. Et je suis certain que vous allez vous joindre à moi pour remercier nos intervenants.